VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Dakar, 18h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. La convention du Parti démocrate à Philadelphie, en Pennsylvanie, commence dans une heure à peine. Les démocrates vont y sacrer Hillary Clinton comme candidate à la présidentielle de novembre. L'ex-secrétaire d'État sera la première femme à être investie à ce poste par l'un des deux grands partis américains. Le point avec Tatiana Mosso, notre envoyée spéciale à Philadelphie.
Philadelphie se réveille ce matin avec des cordons de sécurité partout, en ville comme à l'extérieur, où se trouve le complexe sportif de Wells Fargo Center, où se tient la convention démocrate. Au sein de l'aréna, ce matin, défilent des représentants de toutes les communautés et de toutes les catégories sociales, les vétérans et les familles de militaires, les membres de syndicats, des communautés noires, hispaniques ou encore amérindiens. Des rencontres importantes, notamment pour les plus sceptiques. C'est véritablement la fin de journée qui sera le point d'orgue de cette première journée de convention. Avec les discours de Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts, elle vient de l'aile progressiste du parti et est un vrai soutien pour Bernie Sanders. Puis sera suivi le discours de Astrid Silva, une farouche activiste de la communauté latino, le très attendu discours de la première dame, Michelle Obama, et le dernier à prendre la parole sera le sénateur du Vermont et ancien rival de Hillary Clinton, Bernie Sanders. Un Bernie Sanders qui jouit d'une véritable cote de popularité, comme on a pu le voir depuis hier dans les rues de Philadelphie, avec ses irréductibles supporters qui ont du mal à être convaincus par Hillary Clinton. Certains ont traversé tout le pays, depuis la Californie, et annoncent déjà qu'ils ne voteront pas pour l'ancienne première dame, qui se verrait bien devenir à nouveau locataire de la Maison-Blanche le 8 novembre prochain. Tatiana Mosso à Philadelphie pour VOA Afrique.
Merci Tatiana. On passe maintenant à l'Afrique, au Burundi. Le journaliste Jean Bigirimana, qui travaille pour le groupe de presse Iwachu, est porté disparu depuis vendredi dernier. Il aurait été arrêté par des agents des services de renseignement burundais et conduit à la prison de Muramvya. Mais la police déclare ne pas être au courant de cette affaire. Et on ignore tout, pour le moment, sur son lieu de détention et les mobiles de son interpellation. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Depuis vendredi dernier, Jean Bigirimana, ancien journaliste de la radio CNDD-FDD-RMA FM, recruté récemment par le groupe de presse Iwachu et qui a travaillé pour Info des Grands Lacs, il est porté disparu. Il aurait été arrêté par des membres des services de renseignement burundais dans l'après-midi. Ni sa famille, ni sa femme, personne ne connaît où ce journaliste a été conduit après son arrestation. Il avait dernièrement participé à un stage de formation au Rwanda. Des sources proches de la famille affirment qu'il lui serait reproché d'avoir effectué des navette au Rwanda. Jean Bigirimana a fait un reportage sur la vie des journalistes burundais exilés dans ce pays des mille collines, qui est pointé du doigt par le gouvernement d'être de mèche avec les putschistes du 13 mai de l'année dernière, mais aussi de les abriter. Le vice-président de l'Observatoire de la presse au Burundi, Léandre Sikuyavuga, condamne l'arrestation de ce journaliste et déplore un tel acte. Jean Bigirimana est également le neveu de l'ancien porte-parole du président burundais, Léonidas Hatungimana, un frondeur qui a condamné le troisième mandat du numéro 1 burundais et qui vit aujourd'hui en exil dans un pays européen. Le Conseil national de la communication est déjà alerté de l'arrestation du journaliste du groupe de presse Iwachu. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Centrafrique, les trois otages de Baboua dans l'Ouest, à savoir le sous-préfet de la ville, Robert Thora, le maire David Barboy et le pasteur de l'église apostolique Clotaire Mbosso, enlevés depuis plus de 12 mois par des hommes armés non identifiés, ont été finalement libérés samedi et remis sains et saufs aux autorités. Le groupe rebelle d'Abdoulaye Miskine, très actif dans la région, a joué un rôle important dans cette libération. Félix Yepassizembou a joint Frédéric Wagonda, le préfet de la Nana Mambéré, dont fait partie la localité de Baboua.
Trois ont été libérés depuis samedi à 7h45. Je les ai amenés à Bangui et c'est ce matin qu'ils ont eu audience avec le ministre de l'administration du territoire, avec le Premier ministre et enfin, ils viennent de finir avec le chef de l'État.
Monsieur le Préfet, quelles ont été les conditions de cette libération?
Personnellement, il n'y a aucune condition, je le dis bien, il n'y a aucune condition.
Mais dit-on que le FDPC de Abdoulaye Miskine a été très actif dans cette libération, est-ce exact?
C'est exact, parce que ce sont les éléments de FDPC qui ont mené le opération pour libérer les otages.
Il s'agit donc là d'une opération militaire pour leur libération.
C'est très militaire, hein, parce que eux-mêmes ils refusent de nous donner les détails, mais en tout cas c'est une opération très bien préparée et qu'ils ont fait, ils ont réussi à libérer les otages.
Ces otages, monsieur le préfet, comment se portent-ils psychologiquement?
Et en tout cas, psychologiquement, ils ont le moral. Ils se rappellent de temps en temps des 369 jours de captivité. En fait, ils ont le moral.
Frédéric Wagonda, préfet de la Nana-Bambéré en Centrafrique. Au Congo-Brazzaville, l'opposant congolais Paulin Makaya, leader d'une petite formation politique UPC, Unis pour le Congo, a été condamné aujourd'hui à 2 ans de prison ferme et 2,5 millions de francs CFA d'amende pour incitation au trouble à l'ordre public après avoir organisé et participé à une manifestation non autorisée. Ses avocats ont aussitôt rejeté le verdict, le qualifiant de jugement injuste et illégal. Nous allons faire appel conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, a déclaré Maître Yvon Eric Ibwanga.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le sommet de la Ligue arabe consacré aux crises est en cours à Nouakchott en Mauritanie. 6 chefs d'État de pays membres, à savoir les émirs du Qatar et de Koweït, ainsi que les présidents du Yémen, du Soudan, des Comores et de Djibouti, ont fait le déplacement pour cette réunion avec le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Également présent, le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno, invité au sommet en tant que président en exercice de l'Union africaine. Les discours des leaders ont porté sur la lutte contre le terrorisme et le président Déby a salué le principe figurant à la réunion de création d'une force arabe commune pour lutter contre ce fléau. Le leader tchadien a également prôné les investissements arabes en Afrique pour favoriser, dit-il, une plus grande complémentarité entre ces deux mondes voisins et solidaires. Côte d'Ivoire, les travaux du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Au programme aujourd'hui à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne, la rencontre entre les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et burkinabé Roquemarc Christian Kabore est prévue vendredi. Et puis, toujours en Côte d'Ivoire, les manifestations de la semaine dernière à Moussoukro, Daloa et à Bouaké, qui ont entraîné la mort d'un jeune de 29 ans et la destruction des locaux de la compagnie ivoirienne d'électricité, sont pour le moment calmées. Les manifestants protestaient contre la hausse de leurs factures d'électricité. Pour une analyse de la situation, John Linnon a contacté Adoukoua Godé, président de la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire.
Mais la tension est baissée d'un cran. Aujourd'hui, le calme est revenu. Je pense que les négociations se poursuivent avec des responsables du secteur de l'électricité pour apporter des solutions idoines et durables aux problèmes soulevés par les consommateurs de l'électricité en Côte d'Ivoire.
Vous avez eu une rencontre avec les acteurs de l'électricité en Côte d'Ivoire samedi. Qu'est-ce qui a été arrêté?
Pour le moment, les consommateurs sont satisfaits. Pour preuve, il n'y a plus de manifestations, mais nous continuons de mener les négociations, puisque le problème qui a été soulevé par les consommateurs s'est situé à plusieurs niveaux. Le premier problème, c'était le problème de la facture d'électricité que les gens devaient payer. Ils devaient payer 2 factures en même temps, dans un même délai, avec une pénalité de retard. Donc, ce sont des acquis que nous avons obtenus, puisque nous avons obtenu le report de cette facture-là sur l'émiettement, quoi. Pas le report, mais l'émiettement sur 12 mois. C'est-à-dire qu'on va diviser le montant de cette facture-là sur les 12 mois et permettre aux consommateurs de leur accorder la facilité de payer cette facture. Autre chose, c'est la suppression de la pénalité de retard de 10%. Donc, ce sont des points acquis. Mais au-delà, il y a un cadre de concertation pour discuter en profondeur sur la question de l'arrêté du 20 juin 2016. Cet arrêté, pour nous qui a certaines de ses dispositions, pose problème. Je pense que ce message apporté aux consommateurs est rassurant.
Doukoua Godé, président de la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Et pour terminer, en Zambie, les autorités zambiennes ont décidé hier d'annuler un concert du célèbre chanteur congolais Koffi Olomide. Ce dernier a été expulsé vendredi dernier du Kenya pour avoir donné un coup de pied à l'une de ses danseuses. Koffi Olomide devait se produire la semaine prochaine dans un salon de l'agriculture à Lusaka. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Oh my.